L'EM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine L'EM, qui vous fait entendre le Finistère, qui vous fait... plus exactement, entendre les gens qui font vivre le Finistère. Aujourd'hui, c'est une association qui siège à Quimper, mais qui intervient dans tout le département autour des questions de solidarité internationale, de citoyenneté, de justice sociale, environnementale. Le CICODES nous explique régulièrement la complexité du monde. Oui, ce qu'on fait localement, nos choix, nos actions en Finistère ont souvent et presque tout le temps des effets à l'échelle globale et vice-versa. Nos actes ordinaires du quotidien semblent très éloignés de l'écologie ou des conditions de vie sociale des populations d'Asie, d'Afrique. Pourtant, ces actes ordinaires ont un impact qui peut être négatif ou positif. Il faut en avoir conscience aussi de l'importance de l'éducation. Aujourd'hui, le nom du projet que nous présentent nos invités nous dit tout. Elle change le monde. Au féminin, comme nos invités, Arka Argouliès, qui est animatrice du CICODES, et Valentine Guéguéniat, qui est en service civique au CICODES. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors ce projet, Elle change le monde, qu'est-ce que c'est? Pour qui? Pourquoi? C'est Arka qui va nous expliquer tout ça.
Oui, alors le projet Elle change le monde, on est sur la deuxième édition de ce projet. C'est un projet éducatif qui est soutenu par la ville de Quimper et la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Et donc cette année, on va travailler avec 9 classes dans 6 écoles sur le territoire de Quimper. Donc c'est un projet éducatif qui sert à accompagner et à proposer aux équipes éducatives des séances pour lutter contre l'invisibilité des filles et des femmes ici et dans le monde, et tout en valorisant des femmes dans le monde qui ont agi ou qui agissent pour un monde qui est plus juste et plus durable.
Donc il est question de social et d'écologie, quoi. Enfin, c'est ça.
Oui, tout à fait.
Quand elle change le monde.
Oui, tout à fait. Il faut qu'on... Ici, on est sur notre démarche d'agir, de mieux comprendre et agir pour un monde qui est plus juste, solidaire et plus durable. Et donc, dans ce projet de Elle change le monde, on souhaite, avec les classes, travailler. Donc, on travaille avec les classes de la CP, de la classe primaire, de la CP jusqu'au CM, sur identifier les liens qui peuvent avoir entre les droits des enfants et la lutte contre les stéréotypes de genre. Donc déjà, on essaie d'identifier avec les enfants, de leur faire comprendre quels sont les stéréotypes de genre et comment on fait pour travailler les stéréotypes qu'on va avoir, de les identifier, de les comprendre, les questionner, pour ensuite essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver vraiment pour favoriser l'égalité garçon-fille.
Ça, c'est les objectifs, c'est ça? Enfin, il y a plusieurs objectifs peut-être dans ce projet.
Oui, tout à fait. On est ici sur deux séances d'animation où est-ce qu'avec les classes, on va dans un premier temps essayer d'identifier le lien qu'on va avoir avec, comme j'expliquais, les droits des enfants, mais ensuite essayer de comprendre qu'est-ce qu'un stéréotype. Voilà, sur les stéréotypes qu'on va avoir, les stéréotypes de genre, et ensuite essayer de regarder à travers différents outils donc pédagogiques, travailler sur comment on peut mieux favoriser l'égalité garçon-fille au sein de sa classe et de réfléchir dans son environnement, dans son quotidien, quels sont les différents stéréotypes qui nous construisent, auxquels nous, on cherche à comprendre et on essaie de voir d'où ils viennent et pourquoi est-ce que ça peut être problématique ou pas. Et ensuite, valoriser aussi, regarder à travers justement le portrait d'une femme qui a contribué aux droits humains ou encore à l'écologie dans le 20e et 21e siècle. On essaie de voir aussi, visibiliser ces femmes qui ont contribué au progrès des sociétés.
C'est les élèves qui choisissent les femmes en question ou c'est vous qui leur suggérez des portraits
Alors plutôt, ça va être le CICODES qui va proposer les portraits de femmes. Donc cette année, on se base sur un outil pédagogique qui est les albums jeunesse. On a la série donc, de Petites et Grandes, de la maison d'édition de la Courte Échelle, auquel nous avons sélectionné pour presque tous les portraits de femmes auxquels on va avoir. Je peux donner des exemples, notamment.
Oui, ou alors on y reviendra tout à l'heure, parce que...
On va être sur des noms, je peux donner quelques noms, mais on va en faire tout à fait le portrait, que ce soit Greta Thunberg, donc pour l'environnement. On va avoir aussi parmi les suffragettes Emmeline Pankhurst ou aussi aux États-Unis
les suffragettes, il faut expliquer ce que c'est une suffragette.
Ah oui, excusez-moi. Donc on est sur les personnes militantes pour le droit des femmes, donc ce qui se passe en Grande-Bretagne ou en Angleterre. Donc ces personnes qui
ont milité pour le droit de vote des femmes, tout simplement.
Tout à fait. Voilà.
Suffragettes, d'où le nom suffragette.
Suffragette, qui est le nom qui était donné. Ou encore, on va avoir des personnes, donc des militantes anti-esclavagistes, je pense à Harriet Tubman ou encore à Rosa Parks, donc aux États-Unis d'Amérique. Et donc avec ce projet-là, on essaie aussi de visibiliser des femmes qui ont contribué justement dans leur société ou encore qui contribuent aujourd'hui et qui peuvent être aussi, c'est donner de la représentation aussi dans le parcours d'éducation aux jeunes, aux élèves. Donc ce projet-là, on travaille dessus. La démarche, c'est de travailler dans un premier temps.
Il y a combien de séances en tout?
On est sur deux séances. Donc on est sur deux séances avec les classes. Sur un premier temps, où est-ce qu'on va venir questionner quels sont les stéréotypes de genre, comme j'expliquais, et ensuite de parler de valoriser et de sensibiliser les enfants aux droits des enfants. Donc que l'on soit garçon ou fille, on a accès aux mêmes droits et on peut être qui on veut aussi. Et c'est dans ce premier temps-là, on questionne les stéréotypes de genre, et dans un deuxième temps, on revient sur ces notions-là et on fait le portrait avec les enfants. Eux, par la suite, on demande aux classes de créer une œuvre collective qui sera mise en exposition par la suite. Et ce sera une exposition qui sera dans la ville de Quimper, on espère dans les bibliothèques, et qui sera exposée dans le cadre du 8 mars.
Le 8 mars, oui. C'est bientôt, finalement. C'est dans un peu plus d'un mois, mais bon, ça va venir assez vite. Comment vous faites concrètement les stéréotypes de genre, pour les questionner, comment vous faites? En plus, entre CP et CM, il y a quand même une marge, donc comment vous faites?
Oui, très bonne question. Donc c'est d'où tout le travail aussi sur le psychodèse, de réfléchir à des animations qui sont adaptées, surtout avec des grands mots. Lorsqu'on dit stéréotypes, c'est des grands mots aussi auxquels il faut bien définir et prendre le temps de bien identifier avec les enfants et de bien saisir. Donc on va regarder sur des séances, des animations qui peuvent être sous forme de jeux. Donc on va faire, on aura des petits, avec les plus petits, on va travailler, on a une activité qui s'appelle le jeu des cadeaux. Donc on donne des cadeaux. Est-ce qu'on explique la mise en situation? Les enfants, ils sont invités à l'anniversaire de jumeaux, donc la belle et Marjane, et on va leur proposer
un garçon et une fille, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et on va demander avec une tire, une loupe d'images, de pictogrammes, il y a des cadeaux qu'on va offrir, et en petit groupe, les enfants devront décider, déterminer quel cadeau est-ce qui pourrait plaire le plus à Abel ou à Marjane.
Ils ont un petit portrait psychologique, Abel et Marjane, non? On leur dit pas Marjane est hyper sportive ou non?
Et non, on ne leur donne que l'âge des enfants.
Parce que ça pourrait les aider quand même.
Et non, et voilà. Et d'où le travail, on voit apparaître vraiment les enfants qui vont se mettre à aller tout de suite. On va identifier des cadeaux, on va voir aussi certains objets qui auront certaines couleurs qui sont typiquement données.
Rose pour les filles, et oui, bleu pour les garçons.
Et c'est à ces moments-là qui sont clés dans ces petits travails de groupe qu'on voit émerger vraiment les questionnements vite l'attribution qui est systématique, soit garçon ou fille. Et après, c'est fantastique parce que là, on a des enfants qui nous regardent et qui disent « Oui, mais on ne connaît pas ces enfants. »
Oui, c'est ça.
On ne les connaît pas. Et est-ce qu'on ne peut pas les mettre, les cadeaux, juste au milieu, entre les deux? Et là, c'est fantastique parce que les enfants ont déjà, ils ne suivent plus la consigne. Et c'est super parce qu'ils questionnent, ils remettent en question. Et au début, donc, on fait une première restitution. On leur demande de mettre de chaque côté comment les résultats, d'expliquer leur raisonnement. Et au fur et à mesure, on se rend compte que les cadeaux peuvent être attribués autant à Abel ou encore à Marjane. Et c'est là ces moments clés où est-ce qu'on commence à voir, avec un exemple comme les cadeaux, on peut voir aussi, d'essayer de questionner. Est-ce qu'il y a un caractère spécifique qui est attribué aux filles? Est-ce qu'il y a un caractère spécifique attribué aux garçons? Et ensuite, de questionner et de dire, eh bien voilà, on a peut-être tendance à remettre parfois systématiquement ces cadeaux-là, mais est-ce qu'on les connaît, Marjane et Abel? Pourquoi ils n'auraient pas des intérêts aussi pour les tractopelles ou encore pour les bracelets? Pourquoi pas est-ce que le skateboard, est-ce que Marjane et Abel, peut-être ils ont envie de partager ce cadeau? Et donc là, on se sert, on a une base aussi pour pouvoir questionner un objet tel que les jouets. Et ensuite, de voir, est-ce que vous pensez que les parents, ou est-ce que ça pourrait déplaire aux parents ou à vos parents sur l'attribution des cadeaux.
Valentine Guéguignat, vous avez assisté à ces ateliers déjà?
Oui, tout à fait.
Alors qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a frappé?
Ce qui m'a frappée, c'était de me dire qu'à leur âge, déjà, il y avait une certaine réflexion de la part de ces enfants, notamment sur ce que Arka disait tout à l'heure. On se disait, mais en fait, Marjane et Abel, on ne les connaît pas, on ne peut pas connaître leur goût, on ne peut pas se dire qu'ils vont aimer telle ou telle chose selon le fait que ce soit une fille ou un garçon. Voilà. Et ça vaut pour tous les âges, d'ailleurs.
Donc ça commence à progresser, alors l'idée que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on veut une poupée et qu'on est un garçon, un camion, par exemple.
Tout à fait. Ouais. Et c'est super parce que l'on voit les questionnements des enfants et vraiment de reprendre on leur donne cet espace aussi pour d'exprimer leur désaccord, leur questionnement. Et de se dire, eh bien, d'où vient, pourquoi est-ce que c'est problématique? Pourquoi les stéréotypes peuvent aussi enfermer certaines personnes dans des catégories? Finalement, c'est de ça. Et de se dire, nous avons tous des stéréotypes. D'où viennent ces stéréotypes? Ça vient aussi de l'environnement dans lequel on grandit. Mais que, voilà, si l'on souhaite promouvoir des valeurs d'égalité, donner l'égalité de chance, des opportunités, eh bien, il faut commencer par aller à la base, à la racine, ce qui est questionner les stéréotypes de genre. On voit aussi l'importance de faire de l'éducation dès les plus jeunes âges, de l'éducation à l'égalité des genres, puisque ça nous permet aussi de faire des belles assises de lutte contre les violences sexuelles. C'est sexuel également. Et on est dans l'ère du temps aussi auquel le sexisme commence déjà, on voit à la maison, à l'école, et ensuite explose sur les réseaux sociaux en ligne. Et pour nous, le travail est de le faire aussi dans l'école.
Oui, si à cet âge-là, ils ne sont pas censés être sur les réseaux sociaux, ceci dit.
Voilà. Ah, tout à fait. Tout à fait.
Et alors, donc, vous travaillez sur le jeu, là, le jeu des cadeaux. Ensuite, qu'est-ce que vous utilisez, les livres après, c'est ça, non?
Oui, comme le Psychodes, nous, notre outil d'animation qui nous sert et auquel nous utilisons, c'est vraiment l'outil pédagogique du livre, de l'album jeunesse. Donc partir sur avec l'histoire, donc faire le portrait d'une femme grâce à un ouvrage, donc un album jeunesse, auquel on explore et qui nous sert vraiment pour vraiment solliciter l'imaginaire et aussi partir sur différentes notions, aborder des notions avec eux. Donc ça, ce projet-là, on le fait cette année avec 9 classes. On fait aussi, on a un projet aussi en parallèle qui est en breton, si je peux me permettre.
Mais oui, très bien, très bien.
Donc c'est le projet qui est Elle change le monde, mais notre version bretonne, c'est avec une école. Donc ces projets-là, ils commencent aussi en 2025. Donc je vais me permettre de le dire, le nom du projet en breton, vous me pardonnez.
Allez-y.
Pour mon début en breton. Donc c'est « En ingaldet et mecher apatroet ». Donc c'est parti pour l'égalité garçon-fille.
Ah oui, c'est pas l'équivalent de Elle change le monde en breton, mais c'est c'est le même atelier.
On
quoi.
Est sur une démarche qui est très similaire, mais aussi c'est ça, donc qui est soutenue financièrement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ici, on est sur une animation qui va avoir lieu sur plusieurs mois avec une classe bilingue de cycle 3 et qui cherche donc notre finalité, c'est d'accompagner les élèves à devenir des ambassadeurs, ambassadrices de l'égalité garçon-fille en langue bretonne.
Et j'imagine qu'il n'y a pas tellement de différence entre les enfants qui sont dans les classes bilingues et pas, enfin ceux qui parlent que français.
Oh, ouais. Tout à fait.
Les réactions sont les mêmes.
Les réactions sont les mêmes. Aussi, ce projet-là, il sera aussi fait il est de plus longue date parce qu'il y a plusieurs animations.
Il dure plus longtemps aussi.
Plus longtemps sur le temps. Et on veut ici, mais dans une démarche similaire aussi. Les enfants dans ce projet vont aussi explorer une chronologie donc de l'évolution des droits des femmes en France. Donc se rendre compte aussi et dans le monde de se rendre compte vraiment de les droits des femmes n'est pas acquis, ne sont pas acquis ou non. Plus. Et que voilà, c'est un travail de lutte en continu et de lutte collective.
Et les droits des enfants, comment vous les insérez là dans ces ateliers, sinon
Eh bien, on explique aussi, donc c'est important lorsqu'on va parler, donc ce qui nous parlait de parler de stéréotypes de genre ou encore d'inégalité, ça nous permet de ensuite partir sur l'égalité. Donc, garçons et filles, de parler des droits des enfants, de leur rappeler, de leur donner cette possibilité de mettre des mots sur des choses aussi. C'est une démarche qui nous semble importante, de mettre les mots sur qu'est-ce que c'est l'exclusion, qu'est-ce que c'est les discriminations qui peuvent exister, et de rappeler aussi les droits en tant qu'enfants pour être aussi, pour eux, être mieux outillés pour exprimer aussi leurs émotions ou encore des situations de vécu.
Et comment les garçons en particulier réagissent à ces ateliers ? Est-ce qu'il y a des réactions différentes?
Oui, tout à fait. Oui, on a différentes réactions. On a aussi, on va revenir, on essaie de faire en parallèle souvent sur, oui, on voit en théorie, ça, ils sont d'accord sur l'égalité pour tous et toutes, mais toutefois, on a des espaces comme les cours de récré.
Ben oui.
Et le jeu, sur le moment où il y a le jeu du ballon, auquel on voit il y a un peu plus de conflits. Et c'est des exemples pour nous qui sont clés à saisir et qui sont rapportés parfois en exemple et qui nous permettent. Et qui est pour eux aussi, pour voir un peu dans leur réalité de tous les jours, ah oui, il y a des espaces où est-ce qu'il y a de l'exclusion de filles ou d'exclusion de garçons. On va voir aussi, moi je reprends souvent l'exemple du foot, donc mm-hmm. le stéréotype comme quoi tous les garçons aiment le foot et toutes les filles, ce n'est pas le cas, c'est faux. Et la semaine dernière, nous intervenions dans une école où est-ce que c'était fantastique parce qu'une maîtresse ainsi qu'un élève nous avait énuméré donner en exemple plusieurs footballeuses, donc en exemple, puisqu'il y avait.
Donc célèbres, j'imagine.
Célèbres, connues, mmh. et qu'il y avait, puisqu'il y avait 2 ans, cet élève même avait raconté que les filles n'étaient pas douées en foot et qu'il y avait eu un travail avec la maîtresse de regarder qui jouait au foot. Il y avait aussi le championnat de la FIFA, donc la Coupe du Monde féminin, et que c'était là, cet élève avait changé aussi son avis sur les athlètes féminins, et c'était très inspirant parce que on le voyait qu'il prenait aussi une certaine fierté de pouvoir donner en exemple plusieurs noms d'athlètes donc professionnels et d'expliquer leurs exploits, leur parcours aussi. Et voilà, on voit aussi de l'inspiration de la part des élèves et qui peuvent aussi expliquer, on peut aussi grandir et cheminer en découvrant et en allant au-delà des idées reçues ou de certains préjugés.
Mais il avait développé sa culture et son expertise du foot en général, de toute façon, c'est ça. Alors vous disiez que vous appuyiez donc pour les portraits de femmes qui inspirantes, comme on dit. Vous appuyez sur cette collection de livres, c'est ça, de Petite et Grande de la Courte Échelle. Alors qui est-ce qui nous en parle? C'est vous, Valentine?
Oui, c'est moi. Guéignette.
Alors allez-y, présentez-nous ces livres. Comment ils sont?
Alors, j'aurais pu choisir de parler de beaucoup de femmes comme Ebin Pankhurst ou Greta Thunberg, que Arka nous a cité tout à l'heure. Simplement, aujourd'hui, je vais choisir de vous parler de mon idole, Frida Kahlo. Alors, pourquoi Frida Kahlo? Tout simplement parce que, par rapport à toutes ces autres femmes, Frida, je la place vraiment sur un piédestal. C'est mon héroïne, c'est mon idole, ma muse, je pourrais citer plein d'autres noms. J'ai entendu son nom pour la première fois à l'âge de 17 ans. Et depuis ce jour-là, elle a jamais cessé de m'inspirer. Et je suis persuadée que je ne suis pas la seule, qu'elle continue d'inspirer tous les jours.
Alors, je précise que vous portez un t-shirt sur lequel on voit Frida Kahlo, plein de portraits, en fait, très colorés, très jolis. Juste les livres, en général, cette collection, ça se présente comment? Enfin, je ne sais pas, physiquement, quoi.
Oui, alors ça reste une biographie très simple de ces femmes. Hein, ça s'adresse à des jeunes enfants. Voilà.
Qui sont illustrés, pour nous c'est vraiment un point de départ donc pour découvrir le portrait de la femme. Donc on est sur différentes autrices et dessinatrices et on retrouve aussi à la fin de l'ouvrage un peu plus une biographie un peu plus détaillée, soit mm-hmm. aussi des photos d'époque ou avec une chronologie.
Donc c'est une illustration, c'est plutôt des photos que des dessins?
Non, on est sur vraiment des illustrations.
Oui, là ce sont vraiment des illustrations pour toute la biographie qui s'adresse aux enfants, je dirais. Et à la toute fin, quand on a une biographie un peu plus détaillée, là, ce sont des photos. Enfin, oui, c'est ça, des photos.
Alors, Frida Kahlo, qui était-elle? Parce que tout le monde, je ne sais pas si notre auditoire connaît.
Peut-être pas.
Alors, allez-y.
Alors, Frida Kahlo, c'était une artiste mexicaine qui est donc née au début du XXe siècle, le 6 juillet 1907 à Coyoacán, dans la banlieue de Mexico. Elle est née d'un père hongro-allemand et d'une mère d'origine espagnole, mais qui vivait au Mexique.
Donc déjà un mélange, oui. Intéressant.
Dans une famille nombreuse, elle avait 3 sœurs. Et elle est surtout connue pour avoir souffert tout au long de sa vie, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Déjà à l'âge de 6 ans, elle contracte une grave maladie qui est la poliomyélite.
Maladie... Oui, c'est ça, on ne connaît plus trop, mais
Donc c'est une maladie infectieuse qui a fait qu'elle a boité toute sa vie déjà. Sa jambe et son pied droit restent atrophiés et douloureux, ce qui lui a valu de nombreuses moqueries de la part de ses camarades d'école, qui la surnommaient Frida la boiteuse, Frida l'estropié, Frida jambe de bois. Donc,
toujours sympa.
Pas des choses très, très sympathiques à entendre. Malgré cela, elle a tout de même persévéré. Hein. À l'âge de 15 ans, elle est entrée à l'école, alors excusez mon accent, Escuela Nacional Preparatoria, on va prononcer comme ça. Où elle était une des 35 filles admises sur un total de 2000 élèves.
Et c'est une école de quoi?
Alors ça, je ne saurais pas répondre, mais je sais qu'elle y est entrée pour étudier la médecine.
Ah oui.
Parce que oui, elle a beau avoir vécu une vie d'artiste, elle ne se prédestinait pas du tout à devenir artiste au départ, bien que son père, photographe et peintre talentueux, lui a inculqué un profond intérêt pour les beaux-arts, elle envisageait de devenir médecin.
Bon.
Voilà. Et là, on vient à un moment important de sa vie. Je dirais que Frida est née deux fois. Le 6 juillet 1907 et la deuxième fois le 17 septembre 1925. Le jour où elle a vécu un très grave accident et où elle a vécu donc le premier jour de sa vie en tant que future artiste.
Et donc son accident, c'était quoi? Un accident de voiture ou...
Elle rentrait de l'école en bus avec son amie. Et ce jour-là, ce bus a percuté un tramway. Elle a été très gravement blessée. Plusieurs personnes sont mortes dans l'accident d'ailleurs. Et elle s'est cassée la clavicule, la jambe droite, le pied droit qui s'est écrasé, les côtes, le bassin, la colonne vertébrale qui s'est brisée en trois endroits. Et la barre de fer du bus qui lui a perforé la cavité pelvienne.
Oui, elle avait besoin de ça avec sa polio, la pauvre.
Exactement. Elle est tombée dans le coma et elle s'est réveillée après trois semaines à l'hôpital. Le corps entièrement recouvert d'un corset de plâtre. Elle a dû poursuivre sa convalescence chez elle pendant 9 mois. Elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas bouger. Sa seule distraction, c'était de dessiner ses pieds.
Elle arrivait quand même à dessiner?
Oui, parce qu'elle pouvait utiliser ses bras, bon. Mais pas le reste de son corps.
Ok.
Et ensuite, comme elle souhaitait peindre, enfin dessiner autre chose que ses pieds, elle a quand même demandé à ses parents de lui acheter des fournitures pour peindre. Un chevalet a été placé au-dessus de son lit et un miroir au plafond, de sorte qu'elle puisse se voir et se servir de modèle. Parce que oui, la plupart des tableaux qu'elle a peints durant sa vie, 143 en tout si je ne me trompe pas, pour la plupart c'était des autoportraits. Elle a confié qu'elle se peignait parce qu'elle passait beaucoup de temps seule et parce qu'elle était le sujet qu'elle connaissait le mieux.
Une thérapie, en fait, bien avant à l'époque des selfies.
Tout à fait.
C'est intéressant. Et donc, elle avait un style très original. Enfin, en tant qu'artiste, finalement, pourquoi elle a été reconnue comme ça?
Alors, je dirais qu'elle a été reconnue non seulement pour l'originalité de ses tableaux. Elle osait se peindre telle qu'elle était, en fait. Hein. Elle assumait son style.
Oui, elle ne mettait pas de filtre.
Voilà. Elle assumait son physique. Elle assumait son petit côté masculin, si je puis dire, hein, puisqu'elle aimait se travestir. Il y a même une de ses photos d'archives où elle est entourée de sa famille, habillée avec des vêtements de son père.
Ah oui, j'ignorais cet aspect-là de sa personnalité. Mais pour autant, elle se vivait comme une femme.
Tout à fait. Elle assumait son style avec des fleurs dans les cheveux. Elle est connue pour ça. Hein. On peut retrouver beaucoup de photos d'elle comme ça,
voilà.
Avec de longues jupes très colorées, des bijoux mexicains très typiques.
Et pourquoi est-ce qu'elle inspire, elle peut inspirer les petites filles aujourd'hui, à votre avis, Valentine?
Alors, je l'ai déjà dit, elle a beaucoup souffert tout au long de sa vie et la peinture, c'était justement ce qui lui permettait de se rétablir, de lui donner le pouvoir de vivre, le fameux processus de catharsis, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, voilà. Ça, se libérer, entre guillemets.
Elle a exprimé toute cette souffrance grâce à ses tableaux. Mm-hmm. Et cette souffrance, ça aurait pu la soumettre, elle en a fait sa force, tout simplement.
Elle est devenue mondialement célèbre, bien sûr.
Oui, tout à fait. Là, j'ai parlé que de son accident qui l'a fait terriblement souffrir, mais ce n'est pas tout ce qu'elle a vécu comme drame. Hein. Alors, en 1928, si je ne me trompe pas, elle souhaitait connaître la vie d'un artiste professionnel sur ses œuvres. Elle a rencontré le fameux peintre Diego Rivera. Ensemble, ils partageaient tout, la gloire, les engagements politiques, de fervents communistes, malgré tout, les infidélités aussi.
Et oui.
Oui, malheureusement pour Frida, Diego n'était pas un aussi bon époux qu'un bon artiste. Hein. Deux de ses mariages précédents ont pris fin à cause de ses infidélités. Et son troisième mariage donc avec Frida n'a pas été une heureuse exception.
Alors là, il nous reste encore 2 minutes seulement. Arca, peut-être qu'on peut dire un petit mot des autres femmes qui font l'objet des portraits dans cet atelier, dans ce projet « Elle change le monde ».
Oui, donc nous, on souhaitait aussi Codes, avoir une diversité de femmes d'ici et d'ailleurs, aussi en question de représentation aux jeunes, pour montrer vraiment, on a essayé donc de regarder, donc avec les albums jeunesse qu'on a aussi par la courte échelle, mais de regarder aussi sur d'autres portraits. Donc c'est vrai qu'on a aussi des personnes donc, qui ont existé, mais qui existent aussi encore, et c'est important pour nous d'avoir cette visibilité-là aussi, et que ça soit de l'inspiration aux enfants, puisque pour nous combattre les inégalités de genre ou les stéréotypes, type de genre, c'est essentiel pour aller vers des sociétés qui soient plus vers une préservation des sociétés ou encore contre toutes les autres formes de discrimination. Donc parmi les personnes, on va avoir aussi Malala Yousafzai, donc la militante des droits des femmes, donc qui vient du Pakistan. Donc,
elle a eu le prix Nobel, le prix de la paix
aussi, ouais. Oui, tout à fait, donc en 2014.
Une très jeune femme encore, hein,
oui,
voilà.
Tout à fait, et encore, on a aussi Greta Thunberg, donc la suédoise militante écologique, qu'on a pu avoir avec les grèves du climat qui ont commencé en 2018. Donc pour nous, on essaie d'avoir une diversité de femmes, ou encore, c'est vrai que je pourrais parler de la militante ou la guerrière de la paix libérienne Lema Gbowee, donc qui vient du Libéria et qui a qui avait beaucoup milité lors de la guerre civile qui avait eu au Libéria dans les années 90 et début 2000.
Elle est toujours en vie.
Oui, elle est toujours en vie. Voilà.
Et puis sinon, il y a une très vieille dame, Jane Goodall par exemple, qui est comment est-ce qu'on appelle ça, zoologue, enfin non, éthologue. Je ne sais plus. Enfin bref, spécialiste des grands singes. Voilà.
Primatologue, je crois.
Primatologue, merci beaucoup Valentine. Bon, bah, je vous remercie toutes les deux. On retrouvera le Psychodes dans à peu près un trimestre. Ce sera le 31 mars, voilà, sur un autre sujet. Merci beaucoup.
Merci.
Dans un instant, on va lire un peu, on va aussi découvrir une autre peintre. Mais d'abord,